Et au menu de notre club du vendredi, le forum Neuroplanète à Nice avec les études sur les gènes de l'intelligence, le centenaire de la naissance du cinéaste ethnographe Jean Rouch et une exposition sur l'art et la science en Afrique. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, les explosions d'une étoile qui intriguent beaucoup les astronomes.
Oui, les trop nombreuses et trop longues explosions d'une supernova qui défient les théories sur la mort des étoiles. On en discute avec Philippe Hénarejos du magazine Ciel et Espace.
Ben voilà, pour le sommaire de ce club qui est réalisé par Fanny Bouillon et qui a été préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati et Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le club. Avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et je salue nos invités Stanislas Lyonnais, Andrea Paganini, Sophie Cohen-Bodenès, Kofi Gaou et Jean-Philippe Usan. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes très nombreux autour du micro. Stanislas Lyonnais, vous êtes généticien. Vous serez à Nice demain pour ce rendez-vous Neuroplanète qui commence aujourd'hui, consacré donc au cerveau. Et vous allez y parler des gènes de l'intelligence. Pourquoi est-ce que c'est une question à manier avec beaucoup de précautions?
Parce que le phrasé est assez simpliste. Les gènes, l'intelligence. L'intelligence, c'est déjà un travail extrêmement complexe. On va parler des intelligences. Mm-hmm. Deuxièmement, sa définition par une mesure assez classique d'il y a un siècle, le coefficient intellectuel, la rend ce que les généticiens appellent comme un trait quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Et puis, c'est pas les gènes, c'est les gènes et le milieu, bien sûr.
On va éclairer tout ça avec vous dans un instant. André Paganini, vous êtes co-commissaire d'une exposition Jean Rouch, l'homme cinéma, qui se déroule jusqu'au 26 novembre à la BNF à Paris. Jean Rouch né il y a 100 ans et c'est un réalisateur, on va le découvrir avec vous, qui a complètement bouleversé l'ethnographie sur les peuples africains en particulier.
Oui, en effet, c'est un ethnographe, un cinéaste, un photographe, un écrivain, un homme multimédia, comme on dirait aujourd'hui, qui a bouleversé la discipline.
Avec le centenaire de sa naissance que nous fêtons donc en ce moment. Et puis, il sera justement aussi question d'art africain, avec une autre exposition, Démasquer art et science en Afrique, qui commence à l'Institut Poincaré à Paris. Sophie Cohen-Bodenès, vous êtes la commissaire de l'exposition. L'idée, c'était de montrer comment la science s'invite dans l'art contemporain africain aujourd'hui?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on pense au rapport en général entre art et science en Afrique, peut-être la seule idée qui peut venir aux Occidentaux, c'est l'idée de Picasso par rapport au primitivisme, quand il a essayé de rechercher des patterns de formes élémentaires dans les masques africains, lors de l'invention du cubisme. Mais ce qui est moins connu, c'est l'art contemporain africain de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la réutilisation des masques et des objets des rituels vaudous dans la création artistique contemporaine. Et on va essayer de discuter en quoi il peut y avoir des liens avec la science, les équations mathématiques.
Par exemple. Une quinzaine d'artistes que vous avez invités, dont Kofi Gaou. Vous êtes un des artistes donc, de cette exposition. Vous êtes un des très grands noms des arts et de la culture du Bénin. On va pouvoir découvrir votre travail. 9 œuvres sont présentées justement, autour en particulier du tissu. Vous travaillez sur cette matière depuis longtemps ?
Oui, je travaille la matière. Je faisais de la peinture, mais j'ai vu que le monde entier fait de la peinture. Donc, je dois me donner une particularité.
Eh bien, c'est le
donc,
cas.
Donc, je suis allé vers les tissus. Et à Aboumé, il y a les tentures d'Aboumé. Donc, je me suis inspiré de ce travail. Et puis, bref, j'ai évolué. Et aujourd'hui, je fais des tableaux textiles.
Eh bien, on va en parler avec vous. Et vous ne faites pas que ça. Vous faites aussi du théâtre. Vous êtes comédien. Vous avez étudié à Paris. Bref, on va en discuter avec vous.
Merci.
Jean-Philippe Usan, vous êtes membre de l'Association pour la promotion scientifique de l'Afrique. Et cette exposition Art et Science a dû vous enchanter, hein, parce qu'il y a beaucoup de liens, effectivement.
Tout à fait. Donc au départ, cette exposition a été décidée au moment où j'étais encore à la direction de l'Institut Henri Poincaré. Donc on l'a tout à fait soutenue. Et donc on pourra un peu parler de la raison pour laquelle l'Institut Henri Poincaré s'est beaucoup impliqué en Afrique, en particulier par cette association et d'autres événements.
Voilà donc pour le menu de ce club de la tête au carré avec les auditeurs qui nous rejoignent bien sûr comme tous les jours avec les messages franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et une étrange étoile qui n'en finit plus d'exploser. Normalement, lorsqu'une grosse étoile arrive à court de carburant, elle s'effondre sur elle-même, finit dans une explosion très brillante. Ce phénomène appelé supernova dure en moyenne une centaine de jours. Mais la supernova dont on va vous parler aujourd'hui pourrait bien durer depuis plus de 50 ans maintenant. Une bizarrerie donc à la une, Axel Villard.
Oui, et on en discute avec Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, qui a mené l'enquête depuis une semaine auprès des scientifiques. Alors Philippe, cette étoile, on l'observe exploser depuis combien de temps ?
Eh bien, on l'a observé en septembre 2014. Mmh. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que, en quelque sorte, elle explose encore aujourd'hui. Elle se trouve dans une galaxie qui se trouve à peu près à 500 millions d'années-lumière. Ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est quand même un univers relativement proche. C'est contemporain. Et donc, ça fait à peu près 3 ans qu'elle n'arrête pas de réexploser. Si vous voulez, il y a des pics de luminosité qui sont comme ça observés, puisqu'on la surveille. Et donc, notamment, ces pics de luminosité sont plus puissants, beaucoup plus puissants que ceux d'une supernova classique. Et donc, ça pourrait même être au passage la plus puissante supernova jamais observée. Alors, cette étoile est au moins 50 fois massive comme le Soleil, 50 fois la masse du Soleil. Et la curiosité dans l'affaire, c'est qu'on s'est aperçu, les astronomes de l'université de Santa Barbara aux États-Unis, en Californie, qui ont publié leurs résultats, se sont aperçus qu'elle avait déjà été observée, cette supernova, en 1954. Ça veut dire qu'en 1954, sur une photo, il y avait une photo de l'explosion de la supernova. Ouais. C'est au même endroit. Les astronomes qui étudient l'affaire savent que c'est la même étoile. Et donc, il y a une question qui se pose à eux. Comment une étoile peut-elle exploser plusieurs fois en supernova, puisqu'a priori, quand on explose une fois, on n'existe plus.
Ouais, et ça fait 50 ans que ça dure.
Et ça fait, a priori, 50 ans que ça dure, avec peut-être d'autres explosions entre-temps qu'on n'aurait pas vues.
Mais une supernova classique, ça se passe comment ?
Ben, l'étoile s'effondre sur elle-même à la fin de sa vie. Il y a un mécanisme physique complexe qui fait qu'en fait il y a une espèce de rebond. Toute l'enveloppe de l'étoile est expulsée dans l'espace. Ça fait un flash de luminosité qui dure et qui diminue au bout d'une centaine de jours en moyenne. Et puis après, il reste au centre soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, un objet très dense, qui n'est plus observable parce qu'il est tout petit, ou quasiment pas du tout lumineux. Et donc, il n'y a plus d'étoile, si vous voulez. C'est un cadavre stellaire qui reste.
Est-ce que les auteurs qui publient ces observations émettent des hypothèses, ont des théories concernant cette étoile ?
Alors, ils ont une hypothèse qu'ils privilégient. Ils imaginent comme c'est une étoile très, très, très massive. Quand même, c'est parmi les plus massives qu'on connaisse. Ils imaginent que le cœur aurait chauffé tellement qu'il aurait converti une partie de son énergie en matière et en antimatière, et que la rencontre des deux, qui est, comme on le sait, est assez explosive, aurait fait ces phénomènes à répétition, en chauffant plusieurs fois l'enveloppe, etc. Mais ce processus, qui aurait pu se répéter sur plusieurs décennies, pose quand même des problèmes. Normalement, c'est cela pourrait arriver, mais sur des étoiles qu'on appelle de première génération, avec juste des éléments légers, donc au début de l'univers. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la galaxie est pas si lointaine, donc c'est l'univers contemporain. Donc, a priori, ces étoiles sont pas faites de la même matière, donc ça devrait pas arriver. L'énergie libérée aurait dû être bien moins importante. Et puis, en plus, on a décelé dans la dernière des explosions de l'hydrogène. Or, il aurait dû être expulsé puisqu'il se trouve en surface de l'étoile et on ne devrait pas le voir.
Jean-Philippe Usan, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette supernova qui n'en finit pas de mourir ?
Là, c'est génial, je n'avais pas suivi cette information, parce que ce n'est pas mon sujet de recherche exactement, donc on ne peut pas suivre toute la littérature du domaine, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que, juste en entendant ces informations, on voit qu'il y a un vrai mystère là derrière cette rue, parce que simplement, quelques règles de trois sur la conservation de l'énergie, quand on connaît l'évolution stellaire typique, on voit que ce n'est pas un phénomène qui est possible. Il y a des échelles de temps entre finalement les temps pour d'effondrement d'une étoile, les temps d'explosion et les temps d'évolution. Alors c'est vrai que 50 masses solaires, c'est une étoile qui va être peut-être 50 fois, une durée de vie 50 fois plus faible que ce que le Soleil lui-même, puisque plus une étoile est massive, plus sa durée de vie est courte, mais on n'est pas sur des échelles de temps qui sont de quelques dizaines d'années. Donc là, on voit qu'il y a un vrai mystère. Cette histoire de matière et d'antimatière, j'y crois pas trop comme ça, juste au doigt mouillé.
Vous n'êtes pas le seul, parce que j'ai quand même essayé de poser des questions à des scientifiques, et je suis allé sortir un chercheur qui est un peu spécialiste de ces choses bizarres qui se passent sur les étoiles, et qui en 2002 avait résolu un problème, qui avait vu la première collision d'étoiles. C'est Noam Soker, qui est de l'université Technion en Israël. Et il s'est penché là-dessus. Il a un papier en préparation sur ce cas. Il connaît bien toutes ces choses-là. Et en fait, lui, il dit que ça matcherait mieux avec le rapprochement d'un trou noir massif qui serait rapproché de cette étoile qui orbite, qui serait rentré dans l'enveloppe de l'étoile en 1954. Donc il y aurait déjà eu du barouf, si vous voulez. Et qui, parce que le trou noir, c'est assez compliqué, il y a des jets le long de ces axes polaires qui peuvent percuter la matière de l'étoile, ferait des choses périodiques, ce qui semblerait aller beaucoup mieux avec quelque chose de périodique si on fait un intervenir un deuxième corps plutôt qu'un corps tout seul qui a priori n'a pas de méthode pour pulser comme ça ou pour avoir des explosions à répétition. Donc c'est quand même à suivre, mais c'est peut-être une piste intéressante, alternative avec celle des chercheurs qui ont fait les observations, qui semble presque plus crédible.
Bon, c'est vraiment l'étoile mystérieuse.
Ah, c'est l'étoile mystérieuse. On attend, je vous tiendrai au courant.
C'est celle-là, absolument. On va suivre le dossier de très près. Oui. Grâce à vous, Philippe Hénarejos, on peut retrouver les infos dans Ciel et Espace.
Ah ouais, vous en aurez, je vais continuer là.
Ah bah allez, cielespace.fr en particulier. Merci, bon week-end Axel.
Et à lundi.
Et à lundi. Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la SPA, la Société Protectrice des Animaux, qui lance une grande offensive judiciaire pour défendre les droits des animaux. Corrida, chasse à cour, abattage cruel, expérimentation ou encore animaux de cirque. L'association prévoit d'attaquer une à une toutes ces pratiques qu'elle estime barbares. Le but avancé étant d'ouvrir un large débat public et parvenir à l'évolution de la législation. Par deux fois dans le passé, la Terre a été complètement recouverte de glace il y a 700 et 650 millions d'années. Ces périodes géologiques appelées épisodes de terre-boule de neige sont débattues depuis 35 ans par la communauté des scientifiques. Les chercheurs du CEA publient cette semaine une synthèse des travaux sur le sujet, apportant des explications notamment sur la fonte de ces glaces qui était certainement rapide. Une fois la Terre couverte de glace, le carbone s'est accumulé dans l'atmosphère, créant un effet de serre record et donc un réchauffement rapide. De nombreuses périodes interglaciaires ont suivi ensuite jusqu'à une débâcle totale. Et puis les moutons sont capables de différencier les visages aussi bien que nous. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont entraîné avec succès des moutons à reconnaître des visages humains. 8 femelles sont parvenues à reconnaître et différencier les visages d'acteurs et d'hommes politiques pour obtenir des récompenses. D'autres tests ont permis d'établir que les capacités de reconnaissance faciale de ces animaux sont similaires à celles des primates et des humains. Des travaux originaux qui pourraient nous aider à mieux comprendre certaines maladies neurodégénératives comme la maladie de Huntington ou celle de Parkinson et testée de nouveaux traitements. On parlera des gènes de l'intelligence, justement, dans un instant, mais pas celle des moutons. Allez, le club, dans quelques minutes.
Hear me now, life gets unpredictable. Ooh, I swear bigger to go, and that's the better I shoot. Cause we are trained for the cause. I'm coming for you, come run, yeah, I'm gunning for you. Train. Yeah, we are trained for the cause.
Il est français, il s'appelle Eclipse avec We Are Trained à l'instant.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Et au menu donc cet après-midi, Neuroplanète et les études sur les gènes de l'intelligence, le centenaire de la naissance du cinéaste ethnographe Jean Rouch, et donc cette exposition également sur l'art et la science en Afrique. Vous pouvez nous rejoindre avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Aujourd'hui donc jusqu'à demain a lieu à Nice la troisième édition de Neuroplanète. C'est un forum consacré aux neurosciences avec deux jours de conférences et d'ateliers. France Inter est d'ailleurs partenaire de ce rendez-vous organisé par le magazine Le Point. Et donc toute la journée sur l'antenne, vous pouvez entendre des sujets sur le cerveau. Stanislas Lyonnais, vous êtes généticien et directeur de l'Institut Imagine à l'hôpital Necker Enfants Malades. Vous êtes également l'auteur d'un Que sais-je au PUF, 100 mots de la génétique. Et demain, à 15h, vous serez donc à Nice pour participer à une conférence sur les gènes de l'intelligence à manipuler avec précaution. C'est vraiment le titre hein, de ce rendez-vous. Oui. Pourquoi donc cette quête des gènes est un sujet polémique, tabou, avec lequel finalement les généticiens ne sont pas toujours très à l'aise?
Parce qu'il est très simplificateur sur à la fois l'objet étudié, sur les raisons de l'étude, sur les méthodes utilisées et sur l'interprétation des conclusions. Je trouve que ça fait déjà beaucoup.
C'est vrai.
Alors l'objet étudié est déjà très mal défini. Je suis pas neuropsychologue ni neuroscientologue pour un sou, mais l'intelligence, il faut pas être avoir tarder à dire qu'il y a les intelligences, ne peut se résumer aux intelligences logico-mathématiques qui sont les tests initiaux de Binet, Simon, qui avaient pour, rappelons-le quand même, pour objectif d'aider les enfants à leurs apprentissages et de pouvoir les situer à peu près avec leurs points forts et leurs points faibles en matière de logico-mathématiques. Mmh. Il est évident que l'intelligence ne se résume pas à ça, à un trait quantitatif qui serait mesurable aussi simplement. C'est la première chose. Donc, un mot pour un trait extrêmement complexe, un caractère extrêmement complexe. La mesure est très simpliste aussi. Cela sous-entend aussi
c'est-à-dire les outils qu'on peut utiliser.
Les outils que l'on peut.
Pour essayer d'estimer
les facultés à comprendre, à ne pas se méprendre, à discerner, à interpréter, à conceptualiser toutes sortes de mots qui pourraient définir si l'on voulait l'intelligence.
Le QI, c'est une façon de mesurer aussi.
Le QI est justement
un
curseur gaussien qui a le grand intérêt d'exister, d'être élémentaire.
Il est toujours valable, on peut toujours l'utiliser.
Il est valable en tant que tel, c'est son interprétation est sujette à caution et surtout la transposition du fait qu'il mesurerait l'intelligence. Il mesure une des performances classiques de l'intelligence en l'abstraction logico-mathématique. C'est une partie. C'est pas l'intelligence gestuelle, c'est pas l'intelligence spatiale, c'est pas l'intelligence émotionnelle, c'est pas les relations inter- ou intra-personnelles, c'est pas l'introspection ou le contact avec autrui qui sont autant, et la langue, bien entendu, qui sont autant d'éléments qui composent de toute évidence l'intelligence. Un champ important, c'est l'interaction avec le comportement et les émotions. Ça ne mesure pas ça du tout. Il est évident pour tout un chacun que l'intelligence se teste aussi à l'aune du comportement, des réactions que l'on a, et bien entendu de l'éducation, de l'apprentissage. Tout ça fait, en une phrase extrêmement complexe, l'idée très simple qu'on ne peut pas aborder de manière élémentaire, comme un trait binaire, l'intelligence.
Ouais. Est-ce que donc demain à Nice, vous allez discuter par exemple de cet article qui était sorti en mai dernier dans Nature, avec une équipe qui annonçait avoir découvert 40 gènes associés à l'intelligence? On avait beaucoup commenté d'ailleurs cette publication à l'époque. Elle est intéressante d'ailleurs, le travail était assez sérieux, mais finalement on a simplifié là aussi au fond le travail de ces chercheurs. Alors,
c'est un travail extrêmement sérieux, je pense qu'il est académiquement extrêmement solide. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est des 78 000 individus qui ont été bien testés pour des paramètres de l'intelligence et pour lesquels on a comparé d'un autre côté leur variation individuelle génétique dans des gènes et hors des gènes. N'oublions pas que les gènes, au sens où on l'entend d'habitude, ne composent que 2% de notre ADN. Et puis ces variations sont des signaux qui disent il y a une petite différence entre les classes d'intelligence, les classes de coefficient intellectuel plutôt, et le fait d'avoir ou de ne pas avoir tel marqueur génétique à tel et tel endroit. Vous voyez qu'on est dans l'association, la corrélation des individus et des classes de QI d'une part, et d'autre part des marqueurs génétiques, des signaux. On n'est pas dans la cause. Ouais. On n'est pas dans la biologie de ce qui rapproche les uns avec les autres.
Alors c'est ça, parce que finalement, il y a toujours cette idée de vouloir tout biologiser en trouvant des gènes très identifiables qui seraient justement l'expression très nette, très claire d'une intelligence. Or, on ne peut pas résumer les choses aussi rapidement. Il y a plus de subtilité au fond dans la génétique aussi.
Il y a beaucoup de subtilité, puisqu'on est non seulement dans des séquences de gènes, mais dans la variation de leur expression, de ce qu'ils vont faire, notamment au cours du développement. Mm-hmm. Et aussi, on est dans des régions non codantes, des régions qui ne sont pas des gènes, mais qui peuvent
moduler. Ça veut dire quoi, une région non codante?
C'est tout ce qui est en dehors de ce qui va, selon les canons du code génétique, fabriquer des protéines, pour être simple, mm-hmm. et qui ne représentent que 2% de notre ADN. 98% de notre ADN n'est pas codant, et probablement 40% de ces 98% ont un intérêt majeur, malgré tout. Oui. Et on voit d'ailleurs, évolutivement, à la lumière de l'évolution, la taille du cerveau des primates et des humains augmenter, en même temps qu'augmente non pas le nombre des gènes, mais qu'augmente la taille de l'ADN non codant. Ouais.
Moi, j'aime beaucoup recevoir des astrophysiciens et des généticiens ou des neurologues ensemble, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à effectuer, mais si, entre le cerveau et l'univers.
C'est vrai.
Parce que la complexité des deux, il y a plein de choses qui se rejoignent, au fond, Jean-Philippe Puzan.
Il y a des choses qui se rejoignent, mais moi, je suis pas du tout spécialiste, mais de ce genre de questions, mais quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'il faut déjà une mesure de l'intelligence, dont vous avez parlé de ce fameux QI. Donc là, quelque part, on a un nombre. Et maintenant, vous êtes en train de parler de toutes ces zones non codantes de l'ADN, donc, c'est 98% de l'ADN. Donc on est vraiment dans les big data, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des mesures de big data et de corréler un nombre à une donnée qui est massive, et on en sort des corrélations. Et ça, bon, c'est vrai que c'est une mesure qu'on peut faire, et je pense que ces gens l'ont fait avec une méthode statistique qui est tout à fait efficace. La question est, comme en général dans les big data, c'est qu'est-ce qu'on en déduit de cette chose-là ? Parce que comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il peut y avoir des corrélations. Corrélation n'est pas causalité, absolument. Premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on va en faire au niveau de la société ? Parce que derrière, sur cette histoire de l'intelligence, il y a quand même l'éducation. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel est le rôle de l'éducation ? Quel est le rôle de l'environnement ? Et à quel point ces corrélations sont significatives de quelque chose ? Et bien sûr, on peut toujours imaginer, alors là c'est de la science-fiction, mais toutes les dérives possibles, à partir du moment où on a ce genre de corrélation. Et là, j'imagine qu'il y a aussi des discussions éthiques sur la question que vous devez probablement avoir, je ne sais pas dans votre colloque, mais au moins dans votre domaine.
Tout ce que vous dites donne l'échelle de ce que l'on ne connaît pas là-dedans, notamment ce qu'on appelle le modèle génétique. C'est-à-dire ces signaux disent, oui, peut-être, et je ne conteste pas ces signaux du tout. Et les auteurs, d'ailleurs, sont prudents. Ils parlent de gènes ou de segments génétiques influençant l'intelligence.
Donc c'est déjà pas pareil.
Hein. C'est déjà pas pareil et c'est très prudent. Il faut leur rendre grâce de cela. On ne connaît pas le modèle génétique. C'est-à-dire, quels sont le fait d'avoir deux de ces variants ou trois ? Est-ce qu'ils s'additionnent ? Est-ce qu'ils se multiplient ? Est-ce qu'ils se compensent ? Deuxièmement, il y a un paramètre très important qui a une image biologique et l'épigénétique. C'est quel est le rôle de l'environnement, à la fois l'environnement culturel, socioculturel. Quel est le rôle de l'environnement fœtal, développemental, qui a pu se produire et faire varier les composantes neuronales, leurs synapses. Quel est le rôle de la plasticité des neurones là-dedans. Bref, des champs de la biologie absolument immenses, alors que vous l'avez très bien dit, il y a une mesure absolument élémentaire, on a 98,5 ou 105, et on a en face des variants génétiques. Le rapport entre les deux est très loin d'être compris.
Donc il serait vain de vouloir figer les choses ou de les déterminer, parce qu'on voit bien qu'évidemment la vie elle-même est plastique d'ailleurs, avec les choses changent en permanence, donc l'intelligence aussi par voie de conséquence.
Plus que vain, je pense que ce serait dangereux, parce que c'est vrai qu'alors on dérape immédiatement dans un déterminisme socio-biologique, vous avez tel QI ou tel variant génétique, pire encore, et alors c'est même pas la peine de mesurer votre QI, et on vous dit en moyenne section de matériel, c'est pas la peine d'assister, c'est la négation totale de la culture, la négation totale de l'apprentissage, de l'humanisme, voire même de la famille.
Il y a souvent aussi le problème de confondre la génétique avec l'hérédité et la transmission aussi, c'est l'un des dangers aussi qui pointe.
Bien sûr, c'est une des choses trappes, tout ce qui est héréditaire n'est pas génétique, n'est pas complètement génétique. On sait que des ARN se trimballent dans les ovocytes qui ont une contribution maternelle exclusive et qui n'est pas déterminée par l'ADN de l'individu, de l'enfant. Et on sait aussi qu'il y a des contributions totalement non génétiques à la plasticité de neurones, à des modulateurs du développement des neurones. Donc tout cela est extrêmement complexe et la réduction aboutit tout de suite à l'excès.
Alors nous avons une question dans ce studio avec notre invitée Sophie.
Oui, en fait, vous parlez de plasticité cérébrale, donc je me demandais en fait si le QI, en fait, au cours de la vie d'un individu, ça reste stable ou si en fait le QI évolue en fait selon l'environnement, selon le fait qu'on peut avoir une maladie neurologique ou.
Ça a été mesuré, j'imagine, chez des individus qui ont été suivis sur
le QI à partir de l'âge où on peut l'exécuter, c'est-à-dire à partir de 4-5 ans et pas avant, est une valeur qui justement a le bonheur d'être relativement stable, d'où l'intérêt et l'espèce d'éclairage en se disant on tient enfin quelque chose qui mesure un paramètre comme l'intelligence. Mais en revanche, des études de génétique très intéressantes sur les jumeaux. les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire ceux qui sont génétiquement identiques ou quasiment identiques, comparés à leurs frères et sœurs jumeaux monozygotes, dizygotes, c'est-à-dire différents, juste des frères et sœurs élevés dans le même utérus et au même moment, montrent qu'il y a une espèce de convergence dans le temps avec des QI qui se rapprochent à la virgule près chez les jumeaux monozygotes.
Ah, vraiment ?
Beaucoup plus que chez les jumeaux dizygotes.
Ah tiens, c'est étonnant.
C'est un vieil outil de la génétique.
Mais alors c'est étonnant, parce que ça veut dire que l'environnement joue peu, alors finalement, parce que deux jumeaux vont pas tout le temps vivre ensemble au même moment.
C'est ainsi qu'on a mesuré la part de la génétique à l'intelligence, encore une fois, avec les précautions qu'on avait, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'héritabilité de l'intelligence, qui n'est pas l'hérédité de l'intelligence, mais qui est la part de la différence entre les intelligences qui pourrait être expliquée par la génétique versus l'environnement. Mmh. Elle est élevée. C'est indéniable. Donc les études dont vous parlez sont tout à fait fondées. Elles sont intelligentes, elles ne sont pas bêtes. Leur interprétation doit être extrêmement prudente.
Bon, ben la conversation donc et le débat est lancé. Hein, et ce sera le cas demain donc à Nice, à partir de 15h, dans le cadre de Neuroplanète, donc aux côtés de Jean-François Bouvet et Dominique Stopalionnet. Et puis tout le programme sur Neuroplanète aujourd'hui et demain donc au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice est disponible sur www.neuroplanète.com. Et puis donc cette journée spéciale consacrée au cerveau qui se poursuit sur France Inter. Tout à l'heure, dans le 18-20, Claire Servageant recevra le neurologue Lionel Nakache. Et puis, Les 100 mots de la génétique aux éditions Que sais-je, que vous signez Stanislas Lyonnais. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci, merci à vous.
Et donc, bon voyage jusqu'à Nice. Vous serez demain.
Fantastic!
Sango Blues et Bamako.
La tête au carré, le club.
Extrait d'un film Cocorico, Monsieur Poulet, signé Jean Roche en 1974, l'histoire de l'âme, un vendeur de poulets au Niger. Pour parler avec vous, Andrea Paganini, dans ce club de cette exposition Jean Roche, l'homme cinéma, qui a lieu jusqu'au 26 novembre à la BNF à Paris. Vous êtes le délégué général du centenaire Jean Roche et co-commissaire de cette exposition. Et donc 2017, c'est l'année du centenaire de cet homme tout à fait singulier que nous avons découvert et que certains connaissent déjà bien, qui marque vraiment une nouvelle discipline avec cette ethnographie cinéaste tout à fait particulière de l'Afrique. Qui était Jean Roche exactement, Andrea Paganini?
Alors, question vague, c'est quelqu'un de très connu effectivement et puis quelqu'un de assez peu connu, ouais, finalement aussi du grand public. Jean Roche a fait énormément de choses. Il a renouvelé la discipline scientifique, l'ethnographie, ouais, qu'il a pratiquée, mais qu'il a portée vers l'anthropologie au sens large. L'exemple qu'on vient d'entendre, donc c'était Alou Mozouran qui jouait au piano à Pousse, qui improvisait une chanson dédiée à leur groupe d'amis. Puisque par exemple, une des choses qu'a fait Roche pour ouvrir, disons, l'anthropologie et pour essayer d'inverser le regard d'un côté, de le relativiser, de prendre en compte le regard et la parole de l'autre, c'est de faire des films en commun, de faire des films au pluriel, comme on a pu le dire, et donc une anthropologie partagée. C'est pour ça que Tallo Mozouran, avec son piano et avec sa voix, fait une louange du groupe constitué donc par Jean Roche à l'image, par Moussa Amidou au son, par Damour Ezika, que l'on connaît si on a vu des films de Jean Roche comme Jaguar, comme Cocorico, Monsieur Poulet, justement comme Madame Lo, puisque c'est une série, c'est des films qui se font sur 60 ans, des années 40 aux années 2000. Et donc ce groupe-là fabrique des films ensemble. C'est une histoire de vie commune, c'est une histoire de travail en commun et de mise en commun de pans de vie, de connaissances.
Dont le centre nerveux est le Niger, a priori ?
Tout à fait, c'est tous des Nigériens. Ouais. Jean Roche y arrive en 1941, en pleine guerre, en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées, justement le parcours de Jean Roche.
Ah oui,
Jean
c'est
Roche.
Ça, il est étonnant, hein, parce qu'il n'était pas du tout ethnologue au
il
départ.
Il est ingénieur de formation et ethnographe, premièrement, puis il devient cinéaste, seulement dans un deuxième temps, disons. Et effectivement, le Niger deviendra sa deuxième patrie, il y repose aujourd'hui, depuis 2004, et on peut dire que sa vie se résume par un aller-retour constant entre Paris et Niamey, et puis évidemment de Niamey, il rayonne, il peut aller justement dans la falaise de Bandiagara pour voir les Dogons, mais aussi dans les pays de la côte, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, etc.
Ouais. Kofi Gaou, vous qui êtes du Bénin, est-ce que vous connaissiez Jean Roche, ce cinéaste qui a...
Non, bon, je ne suis pas très très fort, bien informé sur les cinéastes africanistes ou francophones. Mais bon, je n'ai été que des acteurs dans quelques films comme ça, en passant.
Vous auriez pu être sous la caméra de Jean Roche. Est-ce qu'il a tourné au Bénin?
Bien sûr, il a tourné deux films au Bénin. Avec Gilbert Rouget, très grand ethnomusicologue du Musée de l'Homme, d'ailleurs qui vient de disparaître. Je me permets de faire un hommage. Il avait
150, ça m'aurait intéressé. Là.
150, il est disparu il y a deux jours.
Ouais. Alors Jean Roche, justement, est décédé au Niger, dans un accident très bête. Hein. Il était à bord d'une voiture, et il arrivait de France.
Il faisait sombre. Non, il arrivait de Niamey, disons.
Niamey, mais il était en France, il habitait en France à ce moment-là. Il retournait en Afrique régulièrement, et donc il est décédé là-bas.
C'est son dernier voyage, il est resté.
Est-ce qu'il voulait être enterré au Niger ou pas?
Il n'avait pas exprimé explicitement le souhait, mais je pense que oui, il le souhaitait profondément.
Et donc ça a été et donc, 2004.
Vous savez que Jean Roche a reçu les funérailles nationales avec le président de la République, et puis des hommages traditionnels entre guillemets. Par exemple, on a fait une chasse à l'hippopotame pour lui en honneur de sa mort.
Ouais, mais il était chasseur ?
Il a été chasseur, Jean Rouch, oui, ouais. Au fusil, non pas à l'arc. Mais jusqu'aux années 60, après il a arrêté de tuer des bêtes. Ouais.
On va écouter justement la chasse au lion à l'arc. Là, c'est en 1967, à la frontière du Mali et du Niger. Et dans l'extrait qu'on va écouter, c'est tout le rituel justement autour de la fabrication du poison pour les flèches destinées à tuer le lion.
Un samedi matin de bonne heure, les chasseurs se préparent à fabriquer le poison. C'est une opération très grave, qui a lieu tous les 4 ans, et à laquelle les femmes ne sont pas admises. La grande opération commence. Les mains croisées, Sidiki fait cette fois le tour du vase qui est déposé sur le foyer. Puis il prend le vase, et toujours les mains croisées, il le tourne dans le sens des 4 points cardinaux autour des pierres qui servent de foyer. Puis il tombe sur le sol. Ainsi, l'animal qui recevra la flèche tombera sur le sol. Toujours les mains croisées, Taïrou prend une calebasse pleine d'eau et lui fait faire le tour du vase. Au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. La calebasse tombe en trébuchant. Ainsi, l'animal qui recevra la flèche trébuchera, qu'il s'enfuit au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud. L'eau de la calebasse a été puisée par une femme extrêmement jalouse. Elle a été choisie spécialement dans le village pour sa méchanceté. Quand le vase est plein, Taïrou tombe sur le sol une deuxième fois.
Voilà, La chasse au lion à l'arc, et c'est un film Andrea Paganini qui était sorti d'ailleurs sur les écrans à l'époque.
Sur les écrans, qui a été montré à la Mostra de Venise et qui a reçu un prix en 1965.
Et c'est la voix de Jean Rouch qu'on entend, cette voix si particulière,
merveilleuse,
qui a accompagné tous ces films.
Ou en tout cas, tous ces films documentaires, justement. Pour les films de fiction, comme Cocorico, Monsieur Poulet, il donnait la voix aux autres.
Kofi Gaou.
Oui, vous, dans l'extrait, vous allez remarquer qu'il s'agit d'initiation, de rituel. Alors, quand vous êtes dans ce domaine, en Afrique, il doit y avoir certainement des masques. Et ici, l'exposition s'appelle « Démasquer à... » et sciences en Afrique.
Ça, c'est votre exposition.
Oui,
vous êtes pressé d'en parler.
La coïncidence est belle.
Comment vous êtes en train de glisser là comme ça sur votre sujet?
Non, c'est pas ça. C'est quand j'écoutais, parce que quand vous parlez de masque, vous parlez de rituel, d'initiation, de mystique, parce que vous voyez pour les flèches et pour les empoisonner et à l'objectif, au niveau des animaux, c'est tout un rituel. C'est du sacré, vous voyez. Donc, quand j'écoutais, je me suis dit, voilà.
Alors, avait-il vraiment des masques en
Alors, justement, non.
Parce qu'il me semblait bien ne pas en avoir vu à l'image. Hein.
Et d'ailleurs, il y a une frontière très nette entre Niger et Mali, de la religion avec et sans masque. Chez les Dogons, Jean Rouch filme les masques, ils sont effectivement très nombreux, ils sont tout à fait partie intégrante de différents rituels. Chez les Songhai, Jean Rouch, son premier terrain ethnographique, c'est les danses de possession chez les Songhai. Ouais. Les Songhai n'ont pas de masque, justement. Ils incarnent les génies qui viennent prendre possession de leur corps, et voilà. Et il y a des habits, il y a des objets rituels, mais il n'y a pas de masque.
Kofi Gaou, est-ce qu'on chasse le lion chez vous au Bénin?
Bien sûr. Dans le parc Doulouvé, c'est un parc qui réunit et le Burkina, et le Niger, et le Bénin. Donc, quand la chasse est protégée, il n'y a pas de chasse. Mais quand elle est ouverte, il y a beaucoup de touristes, des chasseurs, des spécialistes de ce genre d'activité qui arrivent facilement.
Ouais, donc, la chasse n'est pas interdite. La chasse au lion n'est pas interdite chez vous?
Non, c'est-à-dire que la chasse, il y a des moments où la chasse est autorisée.
Pourquoi? Pour réguler? Parce qu'il y a trop de lions?
Ah, bien sûr, on ne peut pas tuer les animaux n'importe comment. Sinon, les gens vont... Mais non, pas du tout. Elle est chronométrée. Il y a une durée où les lions sont disponibles, mais il y a une durée où on les protège aussi. Ouais.
Vous en croisez souvent des lions chez vous?
Les
lions, est-ce que vous les croisez souvent chez vous au Bénin?
Bon, moi, je me rappelle... qu'en 80, non, on ne on peut pas les croiser en ville, mais quand vous allez, dans le parc, moi j'en ai vu, de mes yeux, en 83 ou 82.
Ah oui, il y a longtemps quand même.
Ah oui.
Andrea Paganini.
Oui, je voulais préciser tout de même que la chasse au lion à l'arc ne se pratiquait plus au Niger à l'époque où Rouche a tourné. Donc il a tourné ce film sur plusieurs années. Ça, c'est une caractéristique de Rouche, c'est le travail au long cours. Ouais. Et donc le film commence en 58, il est terminé en 65. Et à cette époque, déjà, on ne chassait plus le lion comme ouais. ça. Et en quelque sorte, Jean Rouche réactive la pratique. Elle n'est ouais. pas perdue, bien entendu, elle reste dans la mémoire, y compris dans la mémoire des corps, mais elle n'est plus pratiquée. Et c'est un peu... pour le film et grâce au film que la chose voilà revit.
Quelle était la place de Jean Rouche dans ce milieu de l'anthropologie, de l'ethnographie? Comment il était accepté? Parce qu'il avait un parti pris très particulier, c'était aussi d'être le sujet de ses recherches au fond.
Alors on peut dire que d'un côté, il fait un parcours tout à fait classique, il entre au CNRS en 1947, il gravit tous les échelons académiques voilà jusqu'à la fin de sa vie, il contribue à toutes sortes de conférences, etc., organisées par l'UNESCO, donc il y a ce Jean Rouche scientifique... comme ça, mais c'est vrai qu'il instille dans cette discipline froide,
ah
si
oui,
vous
oui,
voulez.
Oui. Là, c'est pas le carnet de notes, là, c'est le cinéma, c'est
l'empathie,
l'image,
l'empathie, ouais. je dirais, l'enthousiasme, ouais. la sensualité.
C'est ça. Donc il n'y a pas le recul habituellement revendiqué.
C'est
par,
ça. Il n'y a pas cette soi-disant neutralité.
C'est
voilà.
C'était critiqué ou pas ça?
Bien entendu, on ouais. lui a reproché. Par exemple, le fait, justement, vous parliez de la voix tout à l'heure. Alors il y avait un des grands critiques de cinéma du siècle. Serge Danet, qui disait que la voix de Jean Rouche était une des plus belles voix.
Ah oui, ça c'est vrai.
Voilà. Mais cette voix, par exemple, elle, vous l'avez vu, elle commente la fabrication du poison, par exemple. Et elle fait quelque chose de plus, souvent dans les documentaires, elle redit des devises. Hein. Elle les traduit, elle les redit. Et par exemple, on peut entendre les devises en Songhai Germa par-dessous, et les devises traduites en français par Jean Rouche. Alors ça, on a pu le critiquer parce qu'on lui a dit qu'il recouvrait les voix ouais. originales, etc. Mais en fait, c'est une mesure d'accompagnement, ouais. de justement d'entrer dans le rituel. Et voilà. Et donc la subjectivité de Jean Rouche est tout à fait fondamentale. Il l'affirme d'emblée. C'est un auteur. Depuis le début, c'était en plus un auteur qui partage sa pratique avec d'autres auteurs.
Mais c'est un grand cinéaste avant tout, non?
Et c'est un très grand cinéphile ouais. depuis son adolescence.
Et un grand cinéaste.
Un des grands amis d'Henri Langlois, dont il prolonge en quelque sorte beaucoup, beaucoup de leçons. D'ailleurs, il prend la tête de la Cinémathèque française après Langlois. Et c'est effectivement un cinéaste ouais. à tout point de vue.
Alors, il a aussi tourné dans les villes, dans les grandes villes, et pas seulement en Afrique d'ailleurs. Il y a eu Paris, New York, Berlin, Porto. Et il y a un film très amusant, un documentaire sur la tribu des Parisiens. J'en ai vu un extrait tout à l'heure en préparant l'émission. On voit justement un Africain du Niger qui arrive à Paris et qui prend la mesure d'un garde devant le musée de l'homme à Paris, c'est très drôle.
Alors c'est l'esplanade du Trocadéro où avait son bureau Jean Rouche, son atelier, le comité du film ethnographique toujours existant, qui est depuis 1952 la date de création par Jean Rouche de cette institution vénérable, se situe au musée de l'homme. Et donc Damoresica, toujours lui, le premier, disons, l'histrion de la bande, la personne la plus visible, la plus exubérante, trouve avec Jean Rouche cette manière d'inverser le regard justement, et donc de mesurer, évidemment de manière tout à fait bouffonne, burlesque et drôle, de mesurer les mesures, de faire de l'anthropologie physique,
dans l'autre sens,
comme on l'appelait au XIXe siècle, sur donc cette tribu de Parisiens, qui ne sont pas très jolis d'ailleurs, qui sont un peu petits, etc., etc.
C'est ça, parce que lui filme aussi des physiques et des beautés, il y a beaucoup de sensualité aussi dans les visages filmés par Jean Rouche. On voit par exemple cette femme au volant d'une décapotable, c'est dans les rues de Paris, c'est ça
c'est Safi Faye, qui est d'ailleurs devenue parisienne, elle habite dans le 14e aujourd'hui.
Qui est-elle?
Ah, Safi Faye, c'est simplement la première réalisatrice femme d'Afrique. Elle est sénégalaise. Et Jean Rouche la rencontre en 66 au festival des Arts Nègres de Senghor. Et il lui demande, justement,
il
est très jeune.
Depuis une autre voiture, elle est au volant de sa décapotable, magnifique.
Sur les Champs-Élysées.
C'est ça.
Voilà. Et d'ailleurs, elle se déshabille peu de temps après dans le film. Et ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'à partir de cette expérience actrice, tout à fait amateur bien entendu, elle va faire 4 ans plus tard son premier film, La Passante à Paris, et donc le premier film fait par une femme en Afrique noire.
Voilà, Jean Rouche donc absolument à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, grand scientifique, ethnographe, mais grand cinéaste avant tout, avec cette exposition donc à la BNF à Paris jusqu'au 26 novembre, faut vous dépêcher, il n'y a plus beaucoup de temps maintenant, c'est Jean Rouche l'homme cinéma, mais heureusement, il y a un coffret qui va sortir le fin novembre aussi, c'est ça?
Début décembre plutôt, je pense,
avec 10 DVD, 27 films
aux éditions Montparnasse, 27 films inédits et rares,
Et également ce livre Jean Rouch, l'homme cinéma, pour découvrir ses films publiés avec le CNC.
Édité par le CNC, qui fait un travail de restauration depuis plusieurs années de l'ensemble de l'œuvre filmique de Rouch. Je voulais signaler aussi une exposition photographique au Musée de l'Homme, qui se tient jusqu'en janvier.
Absolument.
Voilà, puisque Jean Rouch est un très très grand photographe également.
On a mis toutes les références évidemment en lien sur le site de la Tête au Carré. Et pour faire la transition avec notre sujet, on va écouter un dernier extrait d'un documentaire, Sigui Synthèse, l'invention de la parole et de la mort. Ça c'était entre 67 et 73. Vous nous en dites un tout petit mot pour qu'on comprenne ce qu'on va entendre?
Alors le Sigui, c'est une cérémonie soixantenaire du peuple Dogon qui habite les falaises de Bandiagara au Mali, qui est tout à fait d'ailleurs liée à la... au ciel, et notamment à l'étoile de Sirius et à ses compagnons, que les Dogons ont observé à l'œil nu. Et donc, c'est une cérémonie qui revient tous les 60 ans, qui se déroule sur plusieurs années, sur 7 ans. Jean Rouch, avec Germaine Diterlin, une des principales élèves de Marcel Griol, qui a commencé à faire une étude intensive sur les Dogons, tous les deux ont filmé les seuls, ils sont les seuls à avoir filmé cette cérémonie sur les 7 ans.
Extrait.
Les quatre villages de Bongo dominent la plaine du Gondo, juste au bord de la falaise. En février 1969, les anciens de Gogoli et de Bongo préparent le Danou Sigui, un cône d'argile crépi. C'est l'ancêtre, le premier mort, Yongu Serou, prêt à renaître sous forme de serpent et lové sur lui-même. En rouge d'oseille et en blanc de bouillie de mil, les anciens peignent ses écailles. Un poteau à 8 crans et à tête de fibre est peint en rouge et en blanc. Ce sont les 8 âmes essentielles qui manquent encore pour que la résurrection du serpent soit possible. La touffe de fibre rouge sera le signe de l'immortalité. Quand le poteau est planté sur le serpent lové, on achève la métamorphose par le dessin sinueux de la vibration initiale. En face, au-dessus de la caverne de la circoncision, le nouveau grand masque, peint en rouge et en blanc, attend d'être dressé.
Voilà Jean Rouch, donc, pour parler aussi d'art africain dans son club de la Tête au Carré. Et on y arrive, Kofi Gaou, à cette exposition démasquée art et sciences en Afrique, qui a lieu donc en ce moment à l'Institut Henri Poincaré dans le 5e, qui est à voir jusqu'au 8 janvier prochain.
Vous êtes 22 décembre.
22 décembre. Ah, pardon.
22 décembre.
Désolé. Alors, il faut le noter effectivement. 22 décembre avec vous, Sophie Cohen-Bodénès, la commissaire de l'exposition, et Jean-Philippe Usan, donc, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'association pour la promotion scientifique de l'Afrique. Alors, on fait les liens entre tout le monde d'abord, à l'invitation de l'association. Cette exposition a lieu en ce moment?
Alors, donc l'association était venue nous voir. Donc, je dis nous, c'est-à-dire c'est Cédric Villani et moi à l'époque, nous étions à la direction de l'Institut Henri Poincaré. Donc, c'était au printemps dernier pour nous demander de faire cette exposition sur une idée de Sophie, parce qu'elle va vous expliquer un petit peu l'idée qu'elle avait derrière la tête avec cette exposition. Et il est clair que pour nous, on a quasiment accepté tout de suite pour deux raisons. C'est vrai que aussi bien Cédric que moi, on était impliqués dans le développement des sciences en Afrique depuis très très longtemps, que ce soit par notre enseignement, par le soutien de développement de centres en Afrique, par l'accueil d'étudiants africains en Europe et en particulier en France, parce que ça, c'est la base de tout travail scientifique, c'est l'échange et donner la possibilité à des jeunes chercheurs ou à des étudiants africains de rencontrer des seniors et des leaders de leur domaine afin de pouvoir se faire connaître et puis d'être inspiré et d'être mis sur des sujets de recherche vraiment en développement actuel. Donc ça, c'était la première chose, ce lien à l'Afrique. Et puis le lien à l'art qui peut-être peut sembler un petit peu plus lointain, mais pour ceux qui connaissent un petit peu l'Institut Henri Poincaré, vous savez qu'on a cette collection de modèles mathématiques que Man Ray a photographié et dessiné. Et parmi ces modèles-là, il y en a un qui est une surface, on appelle ça une surface cubique, c'est un truc mathématique, je ne vais pas vous expliquer, c'est incompréhensible, sauf que pour Man Ray, il y a vu un masque. Et dans son œuvre qui s'appelle Shakespeare Equation, ce masque devient Othello. Et donc, on avait tout de suite cette relation, en fait, derrière le masque, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Et peut-être que Kofi, qui est très féru en masque, va pouvoir nous dire ce qu'il y a derrière le masque.
Alors, derrière le masque, il n'y a que l'être humain. Et derrière le masque, il n'y a que les émotions. Vous voyez, le masque, c'est pour défigurer le personnage. C'est-à-dire que c'est comme dans le théâtre italien. C'est-à-dire que le personnage, pour ne pas paraître Sophie, pour ne pas paraître Philippe, pour ne pas paraître Kofi, on met le masque. Et là, ça crée un autre univers. et l'univers mathématique, physique ou tout ce qu'on veut, c'est des univers différents, mais le tout revient à l'émotion.
Et vous pensez aux sciences, vous, Kofi Gao, quand vous faites de l'art, par exemple, quand vous tissez ces tapisseries qu'on pourrait avoir, par exemple, dans l'exposition, est-ce qu'il y a vraiment un pan scientifique que vous avez derrière la tête?
Bien sûr. C'est-à-dire que la vie n'est pas que des émotions, mais la science est là, intégrée, mais on ne se fait pas idée consciemment que nous sommes dans un monde scientifique. C'est-à-dire que, c'est ça, au fait. Et si, quand Sophie, on s'est vu au Bénin, mais moi, je n'imaginais pas que, un jour, elle irait vers des scientifiques pour pouvoir faire émerger l'art. Ouais. Alors, je sais pas, Sophie.
Sophie Cohen-Bodenès, alors vous qui êtes la commissaire de l'exposition et qui avait fait venir ces 15 artistes africains. Hein.
Alors, en fait, donc, moi, j'ai été émerveillée quand j'ai vu une tapisserie de Kofi Gao parce qu'en fait, il me dit ça représente un autel à Seine. Et un autel à Seine, qu'est-ce que c'est? C'est un petit objet rituel qu'on utilise donc dans la religion vaudou qui permet de communiquer avec les défunts. Et en fait, c'est un peu une sorte de téléphone, si vous voulez, pour communiquer avec l'au-delà.
Ah oui, c'est la ligne directe.
C'est
finalement.
La ligne directe. Et moi, ce qui m'a émerveillé, c'est qu'en fait,
elle est morte.
Et en fait, si vous voulez, donc sur son patchwork, Kofi Gao, il a fait essaimer depuis cette à Seine des formes circulaires en fait qui évoquent des ondes. Donc c'est là déjà le premier élément qui peut faire penser au lien entre art et science. Et puis aussi ce qui est très intéressant avec ces œuvres, c'est que elles peuvent stimuler l'imagination scientifique des scientifiques eux-mêmes. Par exemple, lors du vernissage de l'exposition, j'ai un ami qui est biologiste, qui a regardé la tapisserie de Kofi Gao. Donc, c'est un patchwork de tapisserie cousue avec des petites croix. Et il me dit, mais moi, en fait, ces ondes, ces formes circulaires, j'ai l'impression qu'elles évoluent sur un champ de vecteurs.
Ouais. Ah oui, c'est de haut niveau quand même.
C'est de haut niveau.
Kofi Gao, on peut parler de coquillage et d'arithmétique, alors? On peut faire des parallèles comme ça?
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. La vie, c'est un tout. C'est un tout, et comme elle a remarqué, le son qui évolue en ondes circulaires, vous imaginez, se retrouve dans une œuvre d'art, de tapisserie. Oui. Vous voyez, on est ensemble sans le savoir.
Alors en fait, donc dans l'exposition aussi, donc il y a des plateaux donc de divination yoruba, et en fait ces plateaux, c'est eux qui sont le siège de rituels arithmétiques, parce qu'en fait ce sont
c'est la première fois que j'entends ça.
Parce qu'en fait dans la géomancie, si vous voulez, qui est la science divinatoire yoruba, on fait appel à des devins. Et c'est vrai que donc la science dure, c'est le fait de prédire le futur à partir d'hypothèses. Et là, donc les gens vont aussi consulter le devin et veulent savoir donc qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ouais. Et lors du rituel, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va jeter aléatoirement des coquillages donc sur le plateau, et donc ça fait intervenir le hasard. Et en fait, le devin va interpréter selon le pattern le nombre de coquillages qui vont retomber
là,
sur le plateau.
On est dans le fa. Ouais. Et le fa est numérique.
Ouais. Il faut jeter des coquillages pour savoir ce qui s'est passé avant le Big Bang, Jean-Philippe Usan. Ça peut peut-être marcher.
C'est le problème, c'est de trouver les coquillages qui étaient là avant le Big Bang. Mais bon, dès que vous me les donnez, je les jette.
Non, c'est pas peut-être. Ça existe. C'est scientifique, c'est mathématique. Henri et Monsieur Juanou Rémy dit au début du fa. Au début de la vie, Dieu géométrisa. C'est-à-dire que quand vous prenez le fa, il y a 216 fois 16 et signes. Et 16 fois 16, ça fait... Et vous voyez, on est déjà dans...
Donc c'est très mathématique.
Voilà.
Effectivement, Andrea Paganini.
Et Jean Rouge ne le contredirait pas, parce que des devins peuvent être aussi des animaux. Chez les Dogons, il y a le renard pâle, qui est le maître du désordre, qui justement donne la ligne de vie. Alors, on trace, pour consulter le renard, qu'est-ce qu'on fait qui vient la nuit? On trace sur la terre, justement, des carrés. Hein, des rectangles, et c'est le renard qui vient manger certaines graines, certaines choses que l'on dépose, et là aussi, en fonction des traces des pattes du renard, il y a une réponse ou l'autre, et Jean Rouge disait justement que le renard faisait déjà le 1 et le 0, il avait déjà trouvé le 1 et le 0.
Le renard mathématicien, oui. Très vite,
vous voyez ce que nous disons là, ça semble théorie, mais moi j'inviterais le public, français parisien à aller voir l'exposition pour pouvoir lire,
bon, hein.
pour pouvoir lire, pour pouvoir matérialiser toutes ces idées, ouais. c'est dans l'expo.
Et on peut acheter les œuvres ?
On peut acheter les œuvres jusqu'au 22 décembre.
Ouais.
Au profit de l'Association pour la promotion scientifique de l'Afrique, donc qui est une association qui a été créée par Vincent Rivasso, qui est physicien, théoricien et directeur des annales de l'Institut Poincaré. Et en fait, c'est une association magnifique qui a créé des instituts de recherche, donc notamment EMS au Sénégal, qui permettent donc de promouvoir la recherche physique, mathématique, et qui font aussi venir organiser des réunions, ils font venir des doctorants africains.
Je voudrais préciser que l'exposition est à la dans la bibliothèque de l'Institut au premier étage.
Ah bah alors ça, si on a la solution, alors il faut absolument aller voir Démasquer Art et Sciences en Afrique. Exposition à l'Institut Poincaré à Paris dans le 5e.
Jusqu'au 22 décembre.
Ah, bravo, merci beaucoup Kofi Gao. Bon retour au Bénin.
Merci.
En attendant, merci à tous. Toutes les infos, parce qu'il y a eu beaucoup de choses cet après-midi dans le club, sont sur le site de La Tête au Carré.